La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillères Anne Ménard et Hélène Filliol, sur un script coécrit par la conseillère référendaire Florence Olivier.
Bonjour Anne.
Bonjour Hélène. Avant un décryptage qui portera sur la prorogation des mandats des représentants du personnel, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale avec deux décisions qui portent pour la première sur le statut du conjoint salarié et pour la seconde sur la rupture de la période d'essai de la femme enceinte.
Commençons par une décision du 25 mars 2026 qui porte sur le régime applicable au conjoint salarié, plus particulièrement lorsque l'activité s'exerce au sein d'une société dont le conjoint est le dirigeant.
La question concerne de très nombreuses personnes. Si un recensement précis est difficile, on peut relever que selon l'INSEE, environ 2/3 des conjoints d'artisans et de commerçants seraient concernés par le travail entre conjoints, soit environ 1,4 million de personnes, auxquelles s'ajoutent les conjoints des professions libérales. La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont dans cette situation.
Peux-tu nous retracer les grandes lignes de la jurisprudence et son évolution jusqu'à l'arrêt du 25 mars dernier ?
Jusqu'à la recodification de 2008, le Code du travail prévoyait dans son article L784-1 que ces dispositions s'appliquaient au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il était réputé exercer son activité dès lors qu'il participait effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il percevait une rémunération horaire minimale.
De quelle manière la Chambre sociale a-t-elle appliqué ce texte pour permettre une protection effective du conjoint ?
Alors la principale question était celle du lien de subordination. Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Chambre sociale a décidé que l'existence d'un lien de subordination n'était pas une condition d'application de l'article L784-1. Elle a ainsi retenu une présomption légale dispensant les juges de rechercher l'existence du lien de subordination alors qu'il s'agit habituellement du principal critère du contrat de travail.
La solution est logique. Car lorsque les relations conjugales et professionnelles se combinent et interfèrent, le lien de subordination peut être absent ou impossible à établir.
La Cour de cassation a encore étendu la protection du conjoint dans deux arrêts du 24 janvier 2007 et du 13 décembre 2007. Elle a affirmé que l'absence de rémunération du travail accompli ne pouvait pas faire échec à l'application de l'article L784-1 du Code du travail. Ne subsiste donc en définitive que la présence d'une activité effective qui ne soit pas occasionnelle.
Là aussi, la solution est logique. La présence du conjoint a permis d'économiser la charge d'un salarié, peu important qu'un versement mensuel entre les époux ait ou non été réalisé.
Mais cette jurisprudence très favorable au conjoint trouvait toutefois une limite importante. La Chambre sociale refusait de faire bénéficier des dispositions de l'article L784-1 le conjoint se prétendant salarié d'une société dirigée par son époux. Cette jurisprudence a été réaffirmée plusieurs fois, toujours sous l'empire de ces dispositions du Code du travail.
Mais ces dispositions ont été abrogées en 2008 à l'occasion de la recodification. Cet article a disparu du Code du travail et les dispositions relatives au conjoint salarié ont trouvé leur place dans le Code du commerce.
En effet, l'article L121-4 du Code de commerce prévoit que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, doit opter soit pour le statut du conjoint collaborateur, soit de conjoint salarié, soit de conjoint associé et qu'à défaut de déclaration, il est réputé avoir exercé son activité sous le statut de conjoint salarié.
Comment la jurisprudence a-t-elle évolué sous l'empire de ces nouvelles dispositions ?
Alors, sous l'empire de ce texte, la Chambre sociale a réitéré, dans un arrêt du 6 octobre 2015, sa jurisprudence en affirmant que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L121-4 du Code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié. Dans cet arrêt, l'épouse travaillait pour le compte d'une société dont son époux était le dirigeant, mais cette question n'avait pas été posée et l'arrêt n'avait pas été publié.
La Chambre sociale vient d'avoir l'occasion de préciser sa position. L'arrêt qui a été rendu le 25 mars 2026 concernait l'épouse d'un chirurgien dentiste qui revendiquait le statut de conjoint salarié. Les époux s'étaient mariés en 1992 et à partir de 2009, l'époux a exercé son activité au sein d'une société. Le couple s'est séparé en 2018 et a divorcé en 2022 et l'épouse a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société et le paiement de diverses sommes. Elle soutenait avoir travaillé avec son époux depuis 1995.
La Cour d'appel a fait application de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'article L784.1 du Code du travail et a considéré que la preuve de l'existence d'un lien de subordination devait être rapportée car l'épouse se prétendait salariée d'une société dont le conjoint était dirigeant. Et elle a estimé que cette preuve n'était pas rapportée. Cette décision a été cassée et la Cour de cassation a affirmé que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L121.4 du Code de commerce qui prévoit le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d'entreprise est dirigeant d'une société.
La Chambre a pris en compte les difficultés probatoires que rencontrerait le conjoint s'il devait établir l'existence d'un lien de subordination et elle a uniformisé le statut du conjoint salarié, que l'activité s'exerce ou non dans le cadre d'une société dont le conjoint est le dirigeant.
La seconde décision de la Chambre sociale que nous allons évoquer concerne la rupture de la période d'essai de la femme enceinte. Dans un autre arrêt du 25 mars 2026, la Chambre sociale s'est penchée sur le régime probatoire de la discrimination dans cette hypothèse.
La protection de la femme enceinte fait partie des normes internationales de droit du travail les plus anciennes. La Convention de l'Organisation internationale du travail numéro C3, intitulée « Sur la protection de la maternité », a été adoptée dès 1919.
Oui, et le droit de l'Union retient le principe d'interdiction de licencier une femme enceinte, sauf exception non liée à son état. Cette protection a un double fondement, le principe d'égalité de traitement et la finalité de protection de la santé et de la sécurité des travailleuses.
Et en droit interne, comment s'organise cette protection ?
Les femmes enceintes bénéficient d'une double protection. D'abord, d'une protection générale, résultant de l'article L1132.1 du Code du travail, qui pose un principe de non-discrimination. Ces dispositions, très larges, s'appliquent à toute mesure défavorable imposée en lien avec l'état de grossesse, y compris la rupture de la période d'essai. On le sait, l'article L1134.1 du Code du travail a mis en place un régime probatoire spécifique en matière de discrimination. Lorsque survient un litige, c'est d'abord au salarié d'établir la matérialité de faits laissant supposer une discrimination, et ce n'est que dans un second temps que l'employeur doit prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectif, étranger à toute discrimination. Sur ce régime, je vous invite à vous référer au podcast thématique numéro 27 de mai 2024, consacré à la discrimination.
Mais en ce qui concerne les femmes enceintes, d'autres dispositions viennent compléter ce régime.
En effet, à ce dispositif général de protection contre les discriminations s'ajoute une protection spécifique, qui est en réalité antérieure puisqu'elle remonte à 1993. Résulte de l'article L1225.1 du Code du travail, qui prévoit que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail en cours d'une période d'essai ou pour prononcer une mutation d'emploi. Il est également interdit à l'employeur de rechercher des informations concernant l'état de grossesse de la salariée.
Et qu'en est-il des règles de preuve ?
Là aussi, c'est la loi qui se charge d'apporter des précisions sur le régime probatoire applicable. L'article L1225.3 du Code du travail précise en effet qu'en cas de litige relatif à l'article L1225.1, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Et il ajoute que lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Ainsi, on se trouve en présence de deux régimes probatoires distincts. Dans le premier, c'est la salariée qui doit dans un premier temps rapporter la preuve d'éléments laissant supposer une discrimination, tandis que le régime spécifique propre à la salariée enceinte fait supporter par l'employeur tant la charge que le risque de la preuve.
C'est cela. Et les cours d'appel étaient partagées sur l'application de ces dispositions. Certaines retenaient que dès lors que l'employeur était informé de l'état de grossesse de la salariée au moment de la rupture de la période d'essai, la discrimination était présumée. D'autres, à l'inverse, estimaient que l'article L. 1134-1 devait trouver à s'appliquer et retenaient qu'il appartenait à la salariée d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
La Chambre sociale, qui n'avait pas encore eu jusqu'ici à se prononcer sur le régime probatoire applicable, a eu l'occasion de le faire dans l'arrêt du 25 mars 2026.
Il s'agissait d'une salariée engagée le 3 juillet 2017 et dont le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois, pour une durée maximale de 2 mois. Le 27 octobre 2017, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 23 janvier 2018. Le 28 novembre 2017, elle a déclaré à son employeur son état de grossesse et sa période d'essai a été rompue par l'employeur le 16 janvier 2018.
Elle a donc saisi la juridiction prud'homale en considérant qu'elle avait été victime de discrimination. Le conseil de prud'homme l'a déboutée de ses demandes et la cour d'appel a confirmé cette décision.
En effet, pour se déterminer, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits allégués, laissant supposer une discrimination.
La cour d'appel a donc fait application du régime probatoire de l'article L. 1134-1 du Code du travail.
Exactement. La Chambre sociale a cassé cette décision et elle a jugé que lorsque l'employeur est informé de l'état de grossesse d'une salariée, il lui appartient d'établir que sa décision de rompre la période d'essai est justifiée par des éléments sans lien avec la grossesse.
Ainsi, bien que la rupture de la période d'essai n'ait en principe pas à être motivée, la Cour de cassation a jugé que le législateur avait entendu conférer à la salariée enceinte une protection accrue en imposant à l'employeur de rapporter seule la preuve de ce que sa décision était étrangère à l'état de grossesse.
Exactement. Mais le principe de la liberté de la rupture de la période d'essai subsiste malgré tout. En effet, les mesures propres au licenciement de la salariée enceinte ne sont pas applicables à la rupture de la période d'essai.
Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur la prorogation des mandats de représentants du personnel.
Nous évoquerons pour cela trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 mars 2026. Dans ces trois litiges, se posait la question de savoir si le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu par un licenciement ou une prise d'acte, bénéficiait de la protection attachée au mandat de représentant du personnel au moment de la rupture et pour quelle durée.
Rappelons tout d'abord que les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, comme les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise auparavant, sont élus pour 4 ans. Les dispositions relatives à la durée des mandats sont d'ordre public et la durée des mandats ne peut en principe être prorogée que par le législateur ou par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord, qui doit être écrit à peine de nullité, doit intervenir avant le terme du mandat et ne saurait le faire vivre rétroactivement. Par ailleurs, une prorogation des mandats ne saurait résulter d'un accord implicite résultant du maintien en fonction des représentants.
L'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu des conditions de prorogation des mandats plus souples que ce qui était admis par la jurisprudence de la Cour de cassation. Une période de transition a été prévue afin d'assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau comité social et économique. Pendant cette période de transition, les mandats des représentants du personnel peuvent être prorogés sous certaines conditions.
Oui, Anne. Si les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.
Pendant la période transitoire, la prorogation des mandats ne nécessite donc pas nécessairement un accord unanime conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Elle peut intervenir par accord collectif majoritaire ou par décision unilatérale de l'employeur après avis des représentants du personnel. Et dans le premier litige, la Cour d'appel a fait une stricte application de ces dispositions.
En effet, la Cour d'appel a retenu qu'à défaut de justification d'un accord collectif majoritaire ou d'une décision de l'employeur prise dans les conditions prévues par ce texte, le salarié ne pouvait se prévaloir d'une prorogation de son mandat jusqu'aux élections du comité social et économique le 22 janvier 2019. Elle lui a en conséquence alloué une indemnité pour violation du statut protecteur, calculée sur la période du 29 mai 2018, date de la prise d'acte, au 10 septembre 2018, date de l'expiration de la protection supplémentaire de 6 mois après la fin du mandat.
C'est ce que lui reprochait le pourvoi du salarié.
Oui, le salarié soutenait que l'employeur admettait avoir prorogé les mandats en cours jusqu'à la tenue des élections en janvier 2019 et qu'il avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et le terme de la protection qui expirait à la fin de la prorogation des mandats décidés par l'employeur. Le salarié faisait valoir qu'il importait peu que la décision de l'employeur n'ait pas été prise dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance précitée, c'est-à-dire sans consultation des institutions représentatives du personnel.
Mais la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement du salarié et elle valide celui de la Cour d'appel.
Oui, Anne, dans le cadre de la mise en place du comité social et économique et de la fusion des institutions représentatives du personnel, le législateur est déjà allé très loin dans les possibilités juridiques de proroger les mandats par rapport à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation exigeant un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Or, la prorogation des mandats empêche les droits du corps électoral de s'exercer à l'échéance normale. La Cour de cassation considère donc que la prorogation des mandats pendant la période de transition ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur sans la consultation des représentants du personnel.
La prorogation du mandat de représentant du personnel est soumise à une autre condition. Elle doit avoir lieu avant l'expiration du mandat en cause.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans le deuxième arrêt rendu le 18 mars 2026. Dans cette affaire, une salariée avait été élue déléguée du personnel titulaire le 24 juin 2014. Son mandat aurait dû prendre fin le 24 juin 2018 et la protection liée à ce mandat le 24 décembre 2018. Le 21 août 2018, après avis favorable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'employeur a décidé de proroger les mandats des représentants du personnel jusqu'à l'organisation des élections du comité social et économique qui ont eu lieu le 9 octobre 2018. La salariée a été licenciée le 1er mars 2019 et invoquée la prorogation de son mandat pour dire qu'elle bénéficiait toujours de la protection attachée à celui-ci au moment du déclenchement de la procédure de licenciement.
La salariée sollicitait la nullité de son licenciement, au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été demandée par l'employeur.
Mais la Cour de cassation rappelle que la durée d'un mandat ne peut être prorogée selon l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours. Et comme le mandat de la salariée d'une durée de 4 ans parvenu à son terme le 24 juin 2018 n'était plus en cours à la date de la décision unilatérale de l'employeur prise le 21 août 2018 de proroger les mandats des délégués du personnel, cette prorogation n'était pas valable. Et cela, peu important que l'employeur ait appliqué sans réserve cette prorogation des mandats.
On voit donc qu'il n'est pas possible de faire revivre un mandat qui est expiré, même si l'employeur a mis en œuvre la prorogation des mandats. On a vu que la progression des mandats doit être formalisée par un accord collectif unanime ou, pendant la période de transition entre les anciennes institutions représentatives du personnel et le comité social et économique, par un accord collectif majoritaire ou par une décision unilatérale de l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. Mais le législateur peut également prévoir la prorogation des mandats.
Oui, Anne. À titre d'exemple, le Code du travail organise la suspension des opérations électorales avec, par voie de conséquence, la prorogation des mandats existants lorsque, faute d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, l'autorité administrative a été saisie pour décider de cette répartition.
Ce sont ces dispositions qui ont été appliquées par la Cour de cassation dans le troisième arrêt rendu le 18 mars 2026.
En l'espèce, en l'absence d'accord avec les organisations représentatives, l'employeur, par décision unilatérale du 27 janvier 2017, a fixé la répartition du personnel dans les collèges en vue des élections à la délégation unique du personnel, dont le premier tour devait se dérouler le 14 février 2017. Cette décision a été contestée le 30 janvier 2017 par les syndicats devant le tribunal d'instance qui, par ordonnance du 10 février 2017, a constaté la suspension des opérations électorales dans l'attente de la décision de l'autorité administrative. Cette décision a été rendue le 11 avril 2017 et a été contestée par l'employeur. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d'instance a statué sur la répartition du personnel entre les collèges, faisant droit à l'argumentation de l'employeur sur cette répartition.
Antérieurement, le 3 février 2017, le syndicat avait déposé ses listes de candidatures pour le scrutin devant se dérouler initialement en février 2017, sur lesquelles figurait le salarié. Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 novembre 2017, celui-ci a été licencié, sans autorisation préalable, le 12 décembre 2017. Invoquant la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de candidat aux élections, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La Cour d'appel a considéré que le processus électoral avait fait l'objet d'une suspension du fait de la saisine de l'autorité administrative, suspension constaté par l'ordonnance du tribunal d'instance du 10 février 2017 et que la fin de cette suspension ne pouvait avoir lieu avant la décision du tribunal d'instance statuant sur le recours de l'employeur contestant la décision administrative de répartition des salariés dans les collèges électoraux, décision rendue le 14 novembre 2017. Dès lors que la convocation du salarié candidat aux élections a été faite le 7 novembre 2017, le processus électoral était toujours suspendu. Ainsi, la protection dont bénéficiait le salarié candidat à l'élection était toujours en cours lors de sa convocation le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Et le licenciement, prononcé en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, était nul.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation. Vous trouverez aussi, par ailleurs, les références des arrêts cités dans le podcast sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci Anne.
À bientôt Hélène.